Et pour en revenir à notre sujet là de la Dordogne, vous, dans votre enfance ou votre jeunesse, vous avez entendu des anecdotes sur les métiers de la rivière ou alors, je sais pas, ou des histoires de noyades ou des choses comme
Vous
ça?
savez, j'ai entendu ce que m'ont dit mon grand-père, que j'ai quand même connu, puisque j'avais 7 ans quand il est mort, et qu'il était né à Mézel, donc tout à fait au bord de la Dordogne. Alors, d'anecdotes, pas des masses, mais il y a une chose certaine, c'est que les gens qui habitaient les berges de la Dordogne n'aimaient pas les gabariers. Pourquoi? Mais on n'aimait pas les gabarits. Il y avait toujours des insultes à leur égard, il y avait qu'ils les méritent ou pas, je ne sais pas. Hein. Mais les gabarits, c'était les moins que rien. Voilà. Ici, à Carennac, d'ailleurs, il fut un temps où ils s'arrêtaient. Mais en amont de Carennac, il y a une île qui s'appelle l'île de Cabrettes. Et au milieu de la Dordogne, il y en avait une autre qui s'appelait l'île des Cabretaigres. Parce que ces gabariers qui descendaient, quand ils s'arrêtaient, il y en avait un qui jouait l'accordéon, l'autre la cabrette, etc. Alors, ils s'arrêtaient, ils cassaient la croûte, le soir, ils dansaient. Est-ce que ça venait de là? Est-ce que c'était une jalousie parce qu'ils faisaient danser les filles? C'est pas impossible. Vous comprenez? Mais on n'aimait pas les. Et ce qui fait qu'ils ne s'arrêtaient pas beaucoup dans le village. Ils s'arrêtaient dans ces îles-là. Après, ils se sont arrêtés en bas, là. Il y avait la rive haute et la rive basse. Il y avait même les anneaux dans le rocher pour accrocher les bateaux. Et ça s'était un peu arrangé, probablement, les relations entre habitants du bourg et les gabariers, parce qu'il y avait une auberge à l'entrée de Carennac où ils allaient quand même. Mais avant, ils s'arrêtaient au-dessous de l'ancienne digue, dans l'île de Cabrettes. C'était tout de suite après le pertuis de navigation, parce que dans cette digue, cette pêchière, il y avait le pertuis de pêche et le pertuis de navigation. Le pertuis de navigation était beaucoup plus large que le pertuis de pêche. Le pertuis de pêche servait à mettre une grosse nasse pour attraper des anguilles en particulier, quand elles descendaient. Et le pertuis de navigation était beaucoup plus large. Ça s'appelait le Pas du Roi. Voilà. Et l'île de Cabrettes était juste au-dessous du Pas du Roi, ce qui fait que quand ils avaient franchi le Pas du Roi, ils pouvaient boire un coup, parce que quelquefois, il leur manquait le Pas du Roi. Et à cette époque-là, les gabarits ne savaient pas très bien nager. Donc, s'ils n'avaient pas les échalas pour s'accrocher, ils buvaient de sérieuses tasses. D'ailleurs, la dernière gabare qui est descendue en 1932, probablement que celui qui tournait le gouvernail n'était pas un expert, mais ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils ont franchi le pas du roi, mais ils sont allés s'écraser contre la berge en face. Et ils ont vendu les échalas, le corrajuna, sur place. Ça, je m'en souviens très bien. Il n'en est pas redescendu d'autres. Par contre, les rescapés de cet accident ont construit un bac en bois, le dernier qui a fonctionné à Gentrac. Il avait été fabriqué à Spontour. Et il est descendu de Spontour jusqu'à Gentrac par la Dordogne. En arrivant à Gentrac, ils ont livré la marchandise et ils sont venus faire un bon repas à Carennac, au restaurant La Vessière, là. Voilà. Et c'est le dernier bateau, celui-là, qui s'est construit à Spontour et qui avait été construit par les derniers gabariers. D'ailleurs, il existe un livre qui est intitulé La Haute Dordogne et ses gabariers, qui a été écrit par un instituteur d'Argentat, Eusèbe Bombal. Et réédité par un autre instituteur, Soudaigne, qui a participé à cette descente. C'est d'ailleurs de lui, et je l'ai connu, Soudaigne, que je tienne ce que je vous lis là. Mais j'ai le livre là.
Oui. Et vous-même, dans votre enfance, vous, par exemple, les enfants, vous participiez à des pêches, des trucs comme ça. Dans votre famille, il y avait des pêcheurs?
Non.
Non.
Aucun.
Aucun.
Non. D'ailleurs, je vous avoue que personnellement, je suis pas. Si. Mais chez moi, chez nous, on ne pêchait pas à la ligne. On connaissait bien la ligne, mais ouais. Mon père était un pêcheur à la ligne, à la volante. Mais il y allait par plaisir. Ouais. Mes grands-parents, quand ils voulaient un plat de poisson, ils prenaient l'épervier. D'ailleurs, entre nous soit dit, que la pêche soit ouverte ou fermée.
Bien sûr.
Et elle va bouffer encore des porviers. Voilà, tout simplement. Nous mangions du poisson toute l'année, au moins deux ou trois fois par semaine. Bon, mieux que ça, il y avait un garde-pêche ici à Carennac. S'il avait fallu qu'il fasse toutes les contraventions, tous les procès-verbaux à tous ceux qui allaient à la pêche toute l'année, il aurait eu du travail. Hein. Alors c'était beaucoup plus simple. Deux ou trois fois par an, il réunissait tous les pêcheurs à la ligne et autres. Et il leur disait, voilà, il me faut un procès-verbal. À qui je le fais? C'est textuellement, hein. Alors, il y avait un type, ça lui faisait rien d'aller coucher en tôle, lui. De toute façon, il risquait rien parce qu'il n'avait rien. Même comme récidiviste. Après tout, aller coucher à la gendarmerie à Vérac, pour lui, c'était même des vacances. Ce qui fait qu'on lui faisait toujours le PV à lui, les autres lui payaient l'amende. Et puis, ça se passait comme ça, voilà. Mais à cette époque-là, vous comprenez la Dordogne, quand on me dit qu'il y a du poisson, maintenant, on me fait doucement rigoler. Mais, vous savez, on pêchait à l'escave. L'escave, c'était un grand filet, un peu comme un verveux, mais beaucoup plus grand. On en avait une autre. Mon arrière-grand-mère avait eu une escave en contrat de mariage. Parce que c'était pas rien, hein. Mais j'ai vu pêcher les eaux et forêts. Il y avait les eaux et forêts et la gendarmerie qui pêchaient, qui faisaient une ou deux pêches par an à l'escave. Et le produit de la pêche était distribué ou vendu au profit des hôpitaux, des hospices, etc. Voilà. Mais le jour où on pêchait à l'escave, il prenait une tonne, deux tonnes de poissons. Il fallait voir un peu. Vous comprenez? Là, c'était... On ne peut pas comparer, maintenant, il n'y a rien dans la Dordogne, il n'y a rien à côté de cette époque-là. Mon père prenait le bateau, on avait un pré en descendant vers Mézel, en face de ce pré, il y avait une île. Il avait son bateau au fond de notre pré, il prenait son bateau tout seul, avec une main, il menait le bateau, avec l'autre, flétable. Hein. Demi-heure après, il revenait avec un plat de poisson. Il y avait 2-3 kilos de poissons, principalement du chevenin. Maintenant, pour faire ça, tiens. Ah oui, non, on ne peut pas comparer, c'est pas possible. Alors, ça vient probablement des barrages, ça, de la température de l'eau. Enfin, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Mais au moment où la lacée, la vandoise frayait, la digue les retenait là-haut, en amont. Vous aviez 9 familles à Carennac qui vivaient de la pêche. Oh, ils n'étaient pas riches, hein. Bon. Mais, vous savez, il y en avait tellement qui ne vivaient pas mieux qu'eux. Eh bien, alors, on pêchait au moment où les arbres s'effraient, la pêche est interdite. Ils y allaient la nuit. Toute la nuit, il faisait le carrousel sous la digue là-haut. On a bouché, il a le grou.
Ah, ouais.
Avec l'épervier, il fallait qu'ils se mettent deux pour remonter l'épervier à le bateau. Alors, ils allaient sur le pré à côté, décharnir, enfin enlever les poissons dans l'épervier, et ils reprenaient la suite. Et le lendemain, les femmes allaient vendre le poisson, avec un panier sur la tête là. À Billac, à Caïssac, un peu partout dans le Corse, là-haut. J'ai vu ça, moi. J'ai vu ça. Mais ça fait 70 ans, bien sûr. Alors, on mange du poisson. On ne savait pas si la pêche était fermée.
Oui,
c'était inutile, il y en avait trop. Bon. Et puis, on pêchait à la fouissine, à la fouenne,
oui.
La nuit. Dans les maigres, à partir de 10 heures du soir, on se serait cru à Venise. Vous aviez les types avec les lampes en acétylène, là. Et puis, là, on tenait la lampe en acétylène, notre fouissine. Et on a pris le poisson, là. Ah, c'était...
Tout le monde a pratiqué, ça.
Ah oui, ça oui. Toutes les familles ici avaient une fouenne. Toutes. Et ils allaient à la pêche. Bon. C'était interdit, hein.
Vous les fabriquez vous-même, là
Ah, c'était le forgeron.
C'est le forgeron.
Ah oui, oui. Vous savez, c'est difficile parce que les gens de Carennac avaient le droit de pêche dans la Dordogne. Déjà, en 1500, ils l'avaient. Puisqu'en 1500, il y a une convention qui a été passée entre les habitants de Carennac et le doyen de l'abbaye. Ils avaient aussi les bacs. On traversait la Dordogne, on passait avec les bacs. Alors ces bacs, comme tout ce qui est, appartient à plusieurs, ils étaient toujours mal entretenus parce que personne n'avait envie de payer les réparations. Bon. Alors, seulement un bac, c'est pas rien. Quand on y passait dessus avec un attelage ou comme ça, si le bac faisait haut de toutes parts, il est arrivé sur notre berge là-bas. Bon. Alors, le doyen, les habitants de Carennac, ont donné les bacs au doyen, à charge pour lui de les entretenir, moyennant une baste de vin par an pour les riches et 5 sous pour les pauvres ou les indigents. Voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, les bacs de Carennac ont été entretenus. Autrement, ils n'étaient pas. Mais à cette époque-là, ce n'était pas des bacs à traille. C'était des barques comme celles que nous avons, là, ni plus ni moins, pointues à chaque bout. Hein. Et alors, on a engagé le bateau sous la charrette, jusqu'au moment où la charrette, où le bateau faisait flotter la charrette, et quelquefois, si elle était chargée trop haut, en arrivant au milieu de l'eau, ça basculait. Il ne fallait pas bouger beaucoup, vous comprenez. Ce qui fait qu'après, ils ont fait ces bacs carrés. Alors, ils avaient un tirant d'eau beaucoup plus important. Et enfin, comme les chargements reposaient sur le fond, c'était beaucoup plus stable. Ils ne se renversaient pas, ces bacs. Mais au commencement...
Jusqu'à quelle époque, les bacs ?
Alors, les bacs... Écoutez, ça fonctionnait encore... Jusqu'en 1870. Il y a eu un bac à Carennac en 1870 encore. Le pont suspendu a été construit à peu près à cette époque-là, un peu plus, ou 1880. Oui. Oui. Il y avait le bac qui fonctionnait. D'ailleurs, c'était juste au-dessous du pont, là-bas, du pont suspendu. Mais primitivement, il y en avait deux. Il était plus bas. Et alors, il y avait le grand port et le petit port. Juste en arrivant à Carennac, à droite, là, en montant, hein, il y a encore, parce que les vaches les ont démolies, autrement, il y avait la cale du bac. Il y avait le grand bac et le petit bac. Ouais. D'ailleurs, cet endroit-là, en amont de Carennac, on l'appelle toujours le port petit. Voilà. Eh oui, voilà.
Et ce feuilleton qu'il y avait eu là sur la Dordogne, là, ça fait prendre conscience aux gens de patrimoine autour de la rivière. Donc ça,
alors, vous savez, cette notion de patrimoine, ici, où elle est exacerbée, ou bien elle n'existe plus.
Il n'y a pas de juste milieu.
Comme vous voulez. Parce que des familles de Karennak natives d'ici, il n'y en a presque plus. Comme vous voulez. Je pense, j'ai tout lieu de croire, parce que je l'ai vu assez souvent, que je fais partie d'une des familles les plus anciennes d'ici. Étant donné que nous étions ici en 1605. Après, je ne sais pas. Bon. Mais en 1605, ma famille était ils se faisaient baptiser ici toujours. Comme vous voulez, parce qu'il y a les noms sur les registres des baptêmes de l'époque. Il y en a presque plus de ces familles. Oui. Et ce qui me fait plaisir, malgré tout, c'est que j'ai deux fils qui ont voulu rester ici. Voilà. Mes filles seraient bien restées si elles avaient trouvé du travail aussi, mais bon, c'est comme ça. Seulement maintenant, vous comprenez, nous sommes envahis par les Anglais, les Américains, les Allemands, les Hollandais, les Danois.
C'est-à-dire que le cadre est tellement magnifique que...
Et oui. Alors, pour eux, le patrimoine, ça n'existe pas. Vous comprenez, c'est ça. On se fait une idée complètement fausse.
C'est un patrimoine reconstitué, un peu ou imaginaire pour eux.
Le patrimoine, qu'est-ce que c'est? Ben, je vais vous dire. Moi, j'étais, à un moment donné, pour le remembrement. Ici, à Karennak, la moyenne des parcelles faisait 1300 mètres carrés. Bon, c'est petit. Alors, je parlais souvent du remembrement. J'étais allé voir une commune du Lot-et-Garonne, là-bas. J'avais vu le maire m'avait dit, vous savez, il faut être patient pour ça, parce qu'il faut que ça évolue. Moi, j'en ai parlé pendant 30 ans. Il avait été maire de 30 ans. Et ce n'est que maintenant que j'ai pu le faire. Et nous montions manger chez ma femme. Mon beau-père, un jour, il ne m'avait jamais rien dit. Mais ce jour-là, il m'a dit, suis-moi. Et alors, ils avaient les tables qui étaient en bordure de la falaise. De là, on domine toute la vallée de la Dordogne depuis Saint-Céré. Jusqu'à Gluge, là-bas. Il m'a dit, tu vois, là-bas, ce pré, il est à moi. Je dis, il y a un moment que je le sais. Parce que figurez-vous que je suis allé y garder les brebis. Il me dit, ah, je ne savais pas ça. Bon, enfin, peu importe. Et je dis, mais c'est pour me dire ça que vous m'avez amené. Il m'a dit, oui. Parce que tu vois, ce pré, on a fait le remembrement dans cette section de la commune de Bonneviolle, de Prudhomme. On n'a pas touché à mon pré parce qu'il faisait 1,5 hectare. Mais si on y avait touché, il y aurait eu des morts et des blessés. J'ai dit, c'est pas possible. Il m'a dit, si. Parce que ce pré, je l'aime comme un membre de ma famille. C'est incroyable. Il m'a dit, vous les jeunes, vous vous en foutez, maintenant vous trouvez tout ce que vous voulez pour manger. Mais nous, on en visait de cette terre. Nous savions qu'à tel endroit de cette terre, on pouvait y faire des haricots parce qu'ils donnaient les pommes de terre à l'hier, etc. Alors, il me dit, tu comprends, quand on a travaillé la terre comme ça, qu'elle vous a fait vivre, comment veux-tu qu'on ne l'aime pas? C'est ça, le patrimoine aussi. Oui. Vous comprenez? Et c'est tout à fait noble. Oui. Vous comprenez? Oui. Alors, cette notion se perd parce que ce ne sont plus des familles du terroir qui habitent ici, ou presque plus. Ou alors, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, qui ne parlent que de l'architecture, hein, de l'église, du doyenné, etc. Ils oublient que le reste a vécu en même temps. Et que le reste a son histoire aussi. C'est ça. D'ailleurs, les gabarres de la Dordogne en font partie de cette histoire. Quels peuvent être les rapports qui existaient entre les gens du village et les gabarriers, vous comprenez ça. Parce qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Mon grand-père maternel était né à Mézel. En 1870, il avait 20 ans. Donc, il était né en 1850, pardon. Bon. les jeunes gens de Mézel et de Carennac, il n'y avait aucun problème. Mais entre les gens de Mézel, de Vérac et de Bétaille, ça faisait vilain. Hein. Alors un jour, pendant les vêpres, quelqu'un est allé prévenir, ils étaient aux vêpres évidemment, le dimanche, est allé prévenir que les jeunes gens de Vérac se préparaient à venir les attaquer en masse à Mézel. Le curé a quitté de dire les vêpres. Et ils sont partis, c'est en se tenant au bord de la Dordogne, ils ont fait des tas de galets. Et effectivement, quand les jeunes gens de Vérac sont arrivés presque à bord, ils ont été accueillis assez fraîchement à coups de galets. Ce qui fait qu'ils ont battu en retraite. Et quand ça a été fini, ils sont partis redire les vêpres. Alors, la rivalité n'existait pas simplement entre les gabariers,
oui.
Elle existait entre les gens. À Beaulieu, là-haut, Beaulieu et Altillac, c'était pareil. À Beaulieu, les gens de Beaulieu disaient de ceux d'Altillac, « Oh, qu'ils faisaient des lailles oh. !» Ouais, voilà. Les rixes étaient fréquentes à cette époque-là, entre les gens des berges opposées. Ouais. On ne sait pas pourquoi. Il y a des tas de raisons, comme on est. On peut les imaginer.
C'était général, hein, les violences entre les
mais les jeunes gens de Mézel étaient allés au baptême de cloche à Bétaille. Ils s'étaient battus. Il y avait eu une rixe épouvantable. D'abord, il y avait eu un mort à Bétaille. Et mon grand-père était revenu, moi je l'ai connu, il avait plus de 80 ans, il avait le cuir chevelu tout couturé, on avait failli le scalper, parce qu'il était en train d'en étrangler un, et l'autre, pour l'empêcher d'étrangler son copain, il lui labourait le cuir chevelu à coups de couteau. Il a bien fait d'ailleurs, parce que sans ça, il l'aurait tué. Bon. J'ai vu la lettre qu'avait envoyée le maire de Bétaille au maire de Carennac, qui à l'époque s'appelait M. Valrivière. Et le maire de Bétaille n'était pas content, évidemment. Alors, j'ai vu la réponse, elles étaient épinglées ensemble, ces deux lettres. La réponse de Valrivière, qui lui disait, écoutez, ce qui s'est passé est tout à fait regrettable, mais quoi que nous fassions, nous ne ferons pas revivre le mort. Et nos blessés, qu'ils soient de Bétaille ou de Carennac, guériront. Ce qui est le plus sage, c'est de ne plus en parler et de faire en sorte que cette chose-là ne se renouvelle pas. Et ça s'est passé comme ça. Alors, petit à petit, ça s'est bien calmé après. Mais enfin, c'est pour vous dire qu'à l'époque, c'était la Dordogne était un peu une frontière, si vous voulez. Voilà.
Ouais, les frontières entre les rives et puis aussi les gens qui venaient de plus haut étaient un peu aussi considérés aussi.
Oui.
Ouais,
c'est ça. Oui.
Et là, sur le thème musical même, bon, y a bien eu cette chanson là sur la Dordogne, mais anciennement y en avait d'autres chansons.
Non, ici non. Je n'ai pas connaissance, je n'ai jamais entendu une chanson spécialement composée spécialement sur la Dordogne. Jamais. Il y avait une vieille bourrée, mais on la chante plus qu'ici. « Dès là, il nous ribotait, il y en a lève une demi-heure. Dès là, il nous ribotait, il y en a lève le cuir. » Mais c'est tout. Il y en avait une autre. « Impochen chalplonqueto loupé morlempé, tumberdin laïa mouillerin mouchouillé. » C'était des bourrées qu'on chante ça. Il n'y avait rien de particulier ici sur la Dordogne. Vous savez, les gens en vivaient, hein, mais c'était tellement naturel chez eux qu'ils n'y prenaient pas.
Oui, ça faisait partie de leur environnement naturel. Ouais.
De toute façon, j'ai appris à nager, moi j'avais 16 ou 17 ans.
Ah oui.
Mais j'étais allé pêcher sur la Dordogne, gamin. Jamais mes parents m'ont dit Ils m'ont dit, fais attention, tu risques de tomber à l'eau et de te noyer. Jamais. Ça leur était même pas venu à l'idée.
Pourtant, vous deviez y aller souvent. Vous étiez tout le temps fourré.
Vous parlez, ici, sur la palissade là-bas. Oui, et tous les gosses de Carénac, vous comprenez. Bon, on tombait dans l'eau. Combien de fois nous sommes tombés dans l'eau? On ne s'est pas noyé parce qu'on ne savait pas nager, mais on arrivait à se raccrocher après le bateau d'une façon ou d'une autre. On touchait fort, mais on remontait, et puis voilà. Bon. Ça ne nous inquiétait pas du tout. Hein. L'eau, pour nous, c'était un élément naturel, tout à fait. On n'y avait pas peur, ni dessous, ni dedans. Voilà. D'ailleurs, je n'ai pas connaissance, sauf, hélas, il y a peu de temps, un petit garçon qui avait 5 ans et qui s'est noyé. Autrement, des gens de Carénac, jamais personne ne s'était noyé dans la zone, sauf un contrebandier, et ma mère n'était pas bien grande, qu'on appelait Loupio. Et s'il s'est noyé, ce n'est pas parce qu'il ne savait pas nager, c'est parce que les gendarmes l'avaient fichu à la course. Il a voulu traverser la Dordogne le jour de Noël, l'après-midi, à la nage. C'était de l'eau de neige, elle était trop froide. Il a fait une hydrocution. Voilà. Autrement. Et oui. Voilà.
Ça peut exister ailleurs, des endroits où il n'y a pas des chapelles ou des croix ou des choses comme ça au niveau religieux. Par exemple, qui était voué aux mariniers ou tout ça ou...
Ah non, pas ici.
Ils entretenaient...
Je vous ai cité l'île des Cabretailles tout à l'heure. À Beaulieu, il y a la chapelle des pénitents où les gabariers allaient à la messe quand ils s'arrêtaient là. Ici, non. Alors, est-ce qu'ils s'arrêtaient et qu'ils allaient à la messe ici? Je ne sais pas. J'en ai jamais entendu parler. Non. Vous savez... Ma famille ici n'était pas particulièrement dévote.
Dévote.
Non. Mon arrière-grand-père qui était meunier, c'était même un rouge. Et les dénoyés de second acte pour qui il travaillait, évidemment, c'était pas la même couleur. Mais c'était un bon meunier probablement parce qu'il le gardait. Mais chaque année... Il lui disait Cairol quand même, parce que lui, mon grand-père d'ici s'appelait Cairol.
Ah, d'accord.
C'était le père de ma grand-mère. Cairol, il faudrait quand même que vous alliez faire vos Pâques. Hein. Chez nous, ici, tout le monde va faire les Pâques, même les domestiques. Hein. Alors le meunier, il faudrait bien qu'il y aille. Bon, il n'y a jamais. Et puis, une année, Madame Dunoyer lui a dit, si vous n'y allez pas, on ne pourra pas vous garder. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Il faudra bien que je gagne alors. Et vous vous rendez compte, depuis le temps que je n'y suis pas allé, j'en ai pour toute la journée. Enfin. Et puis c'est pas tout ça, mais comment il faut faire? Il le savait bien, mais il n'avait pas du tout envie. Eh bien, c'est pas bien compliqué. Vous faites votre examen de conscience, puis à votre tour, vous allez dans le confessionnal, vous vous mettez à genoux. Et quand le monsieur le curé vous lira la grille, là, vous lui dites « Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de moi. » Ah bon, il faut que je marque sur un bout de papier, c'est parce que je ne suis pas sûr de même. Bon. Et puis, il n'est pas compensé, il n'est pas allé faire ses Pâques. Cairol, vous n'êtes pas allé faire vos Pâques. Ah, ce n'est pas de ma faute, hein. Comment c'est pas de votre fatigue, hein? Le curé n'a pas voulu me confesser. Il n'a pas voulu vous confesser. Écoutez, pour aller faire un Pâques, il fallait qu'il me donne l'absolution. Il n'a pas voulu me donner l'absolution. Et qu'est-ce que vous aviez fait? Oh oui, tu ne savais pas grand-chose. Hein? Comme à lui, tu te jugeras un peu. Bon, mais il y en a bien d'autres. Etc. Je suis meunier, on m'accuse de voler les clients. Ça, toute la vie, ça s'est fait, mais vous ne savez pas comment ça s'est passé, eh bien, c'est bien simple. Vous m'aviez dit que dès qu'il ouvrirait la grille, il fallait que je dise « Agneau de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de moi. » Eh bien oui, eh bien voilà comment ça s'est passé. Il a ouvert la grille, j'ai dit « Mouton de Dieu qui efface les péchés du monde, ayez pitié de moi. » Crac ! Il a fermé la grille et je n'ai pas pu me confesser. Mais pourquoi vous avez des moutons de Dieu? Depuis le temps que vous l'appelez agneau, il n'est pas devenu mouton. Alors elle n'a pas insisté, et il y est resté quand même jusqu'à 80 ans. Mais elle ne lui a plus parlé de faire ses Pâques. Voilà. Et le d'ailleurs, il est mort d'une congestion cérébrale. Les dernières paroles qu'il a prononcées, c'était pas pour demander le curé. Il avait tourné les yeux vers l'étagère où il y avait la bouteille de goutte là-haut. Et il a dit à la goutte. Le reste, bon.